Radio Saint-Ferréol et Erdiwa présentent Il est une vallée, une série non achevée de ce qui soutient la vie sur notre territoire.
Parole d'ici,
de là.
Quand tu vas t'intéresser aux choses, elles vont finir par te parler.
Résilience, agroécologie, transition, permaculture, des mots qui ont l'habitude de résonner dans nos vallées tellement qu'elles nous paraissent désormais familières et dont l'écho se fait parfois entendre dans des articles, des ouvrages, des films qui traitent de la Drôme et ce jusque dans une bande dessinée, Les Seigneurs de la Terre, dont le sixième et dernier tome, intitulé justement Résilience, est sorti le 23 février dernier. Une bande dessinée qui se déroule dans la Biovallée où l'on suit Florian, fils d'agriculteur qui quitte son métier d'avocat pour devenir paysan bio dont il est fervent défenseur. Et pour en parler dans cet épisode d'Il est une vallée que vous écoutez sur Radio Saint-Ferréol et Erdiwa, j'ai le plaisir de recevoir Fabien Rodin qui en est l'auteur, avec Lucas Malissane qui ne pouvait lui pas venir. Voilà. Vous êtes deux auteurs de cette BD. Bonjour Fabien.
Bonjour Théo et Anna.
Et Anna qui est à la technique et qu'on remercie pour la technique de cette émission. Donc Fabien, dans cette bande dessinée, on suit donc Florian, comme je le disais, qui est le personnage principal et qui évolue et qui travaille ici, dans la Biovallée, là où il a choisi de s'installer. Dans les dessins de Lucas Malissan, on reconnaît d'ailleurs Die, Saillant, Cré, son marché, quelques villages, les bords de Drôme, les Trois Becs, jusqu'à certaines de nos bonnes bières artisanales dans certains de ses dessins. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi de mettre en avant cette vallée et comment est-ce que vous en êtes inspiré, vous qui vivez cette Biovallée ?
Ben, j'ai l'impression de dire qu'il suffit d'y vivre et d'être un petit peu à l'écoute de ce qui se passe pour s'en inspirer, quoi. Enfin, moi, je ne suis pas venu ici par hasard, hein, donc je suivais cette Biovallée depuis des années, allant régulièrement avec mon épouse ou en famille à Mirmande, à Soux, à Cré. Et il y a 4 ans, ben, on a décidé de changer de vie et de s'y installer définitivement.
Il y a 4 ans, donc ça correspond avec le début de l'écriture de la BD ou...
Non, pas vraiment, parce qu'il y a un grand décalage. Hein. Faut se dire qu'il faut 1 à 2 ans pour créer une BD. Ce qui fait que le premier tome, j'ai commencé à y travailler en 2014, il est sorti en 2016. Et il y a à peu près 4 ans, ben, je travaillais en effet sur les tomes 5 et 6. Dans lesquels Florian me suit et s'installe lui aussi dans la Biovallée.
Donc une correspondance quand même avec votre installation ici. C'est votre première BD, je crois.
Oui.
Et vous attaquez fort puisqu'il y a donc, comme vous l'avez dit, 6 tomes. Est-ce que c'était un choix, ça, déjà, d'en faire 6 tomes ou est-ce que le sujet, c'est le sujet qui vous paraissait assez vaste pour en
ah
faire 6?
Ah oui, bah, je pense qu'il est vaste pour en faire 10 fois plus, mais disons que c'était un rêve pour moi de pouvoir en faire 5 ou 6 tomes parce qu'en effet, c'est significatif. Alors, pour une entrée dans les BD, c'est vrai que c'est, dans le monde de la BD, c'est pas rien du tout, quoi. D'autant qu'aujourd'hui, c'est assez compliqué de lancer des sagas. Le marché des lectorats est plutôt sur les romans graphiques, sur un principe un peu plus court. Les gens ont moins envie d'attendre un an et demi pour avoir la suite des aventures de leur BD.
Et 6 tomes, du coup, qui traversent, alors ça traverse de nombreuses années, c'est 23 ans, je crois, oui, d'agriculture biologique pendant ces 6 tomes. Est-ce que vous pouvez très rapidement déjà nous faire le topo un petit peu de l'idée générale et de toutes ces années que vous traversez dans les 6 tomes ?
Eh bien, au départ, on suit le retour à la Terre donc, de Florian, le protagoniste principal, et du coup forcément sa famille, puisque ce n'est pas un choix anodin du tout. À la base, il est jeune avocat lyonnais, donc plutôt urbain, ce qui convient bien aussi à sa future épouse. Et puis, il est touché par un événement en Amérique du Sud, et à partir de là, il se dit « ma vie, c'est pas d'être avocat et de régler des divorces, c'est de faire autre chose ». Et donc, il fait son retour à la Terre, mais lui, il le fait dans le bio, contrairement à son père, qui est le président de la grande coopérative conventionnelle, comme on dit, hein, du Sud-Est. Et donc, il se confronte à l'époque, on est en 99, il se confronte à tout l'écosystème qui n'est pas spécialement favorable au bio, bien au contraire. Ça, c'est l'objet des 2 premiers tomes. Puis ensuite, on en a 2 autres où, pour des raisons familiales et qui font partie de l'intrigue, il se retrouve à aller en Inde. Et là, en Inde, ça me permet d'universaliser un petit peu le propos et de montrer ce qui se passe là-bas à coup de monoculture, hein, surtout le coton, avec une seule variété pratiquement qui demeure à coup de sélection technique. Et puis, bien sûr, la problématique des OGM, et qui dit OGM dit pesticide. Et en Inde, qui dit pesticide dit suicide d'agriculteurs. Mmh. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a que là-bas. Hein. Je rappelle qu'en France, il y en a 2 à 3 par semaine, quand même, au passage. Mmh. Donc voilà, ça, c'est l'objet de ces 2 albums. Et puis, dans les 2 derniers, il revient, il a pris, du coup, il a pris une 20aine d'années, et c'est là qu'il revient s'installer en France, et en l'occurrence dans la Biovallée.
Alors c'est surtout de ces 2 derniers tomes dont on va parler justement. Donc c'est une BD qui parle d'environnement, de solutions très pratiques, de transition écologique, d'agroécologie. Une BD engagée, est-ce que c'est votre engagement que vous avez voulu mettre en avant?
Oui. Oh oui, moi ça me parle, c'est mon engagement, personnel, familial aussi, pas que moi. Et j'avais à cœur de le mettre dans cette BD, et en version grand public, parce que des bandes dessinées sur cette thématique, c'est évidemment pas la première. Par contre, c'est peut-être une des premières, si ce n'est la première, avec une visée grand public, assumée.
C'est ça, c'était vous cherchiez de toute façon à vous adresser au grand public.
Oui, moi j'étais très touché il y a une dizaine d'années, peut-être un peu plus, par une phrase de Pierre Rabhi qui m'avait dit « Le truc, c'est qu'il faut qu'on gagne maintenant un nouveau public ». Parce que parler aux convaincus, ça a ses limites. Et l'idée de la BD, c'est aussi ça. Bon, déjà, pour moi, c'est l'amour de la BD, parce que je suis fan depuis assez longtemps. Mais dans l'intention, c'est aussi ça, quoi. C'est d'aller chercher des lecteurs de BD et de les choper au passage avec une ou deux graines de conscience qui vont pousser ou pas.
Donc une vocation pédagogique, graines de conscience, comme on peut dire, mais aussi du coup plein, c'est une BD très documentée, c'est-à-dire qu'il y a plein d'infos clés, on y suit des résultats d'enquête plus ou moins connus, il y a de nombreuses infos réelles, des références scientifiques, politiques ou liées à l'actualité des dernières années, avec des notes de bas de page très bien faites qui accompagnent la lectrice et le lecteur pour ne pas les perdre. Donc c'est ça sa vocation principale finalement, de faire de la pédagogie, d'apprendre, de semer des graines, mais aussi d'apprendre des choses à travers cette BD.
Oui, alors en essayant, en tout cas c'était mon propos, en essayant de pas faire trop non plus de pédagogie, puisque sinon on bascule vers quelque chose de plus documentaire. Moi ce que j'aime bien, c'est raconter des histoires qui partent en effet du réel, mais inventer des personnages complètement fictifs, et de tenter de donner goût aux lecteurs, de tourner des pages par l'histoire humaine. Beaucoup plus que par la documentation, mais par contre de temps en temps de planter un fait, et si à la fin du tome ou de la série le lecteur se dit mais qu'est-ce qu'il nous raconte là, et qu'il va tapoter sur internet pour vérifier, bah j'ai gagné.
Ouais, ça a marché pour moi, il y a des choses que j'ai essayé d'aller vérifier parce que j'étais
cool.
Pas sûr. Et ouais, du coup c'était justement ma question suivante, c'est que c'est une fiction avant tout, est-ce que c'est quand même, est-ce qu'il n'y a pas une démarche documentaire un petit peu à la manière d'Étienne Davodeau, est-ce que vous vous inspirez un petit peu de ce type d'auteur quand même?
Ah, moi j'adore ce que fait Davodeau, et puis je l'ai souvent comme question parce qu'en effet on est un peu dans la même famille quoi, de conscience en tout cas, avec un traitement différent, puisque Davodeau justement fait plutôt de la BD intimiste, plutôt documentaire, où il raconte ses propres expériences. Si on prend Les Ignorants, qui fait référence par exemple dans les BD sur le monde du vin, il raconte son histoire avec un vigneron en biodynamie. Ils ont passé du temps ensemble, il raconte cette expérience en fait, il romance beaucoup moins. Mais on est dans la même famille, bien sûr.
Alors comme je le disais en introduction d'émission, on suit Florian, qui est personnage principal et qui cherche à se reconvertir dans l'agriculture bio et paysanne. On retrouve donc une critique de l'agriculture intensive, l'agriculture conventionnelle imposée comme modèle dominant, surtout depuis l'après-guerre, plus encore en tout cas depuis l'après-guerre. Et on y retrouve aussi cette question, vous en avez parlé un petit peu, du conflit intergénérationnel, puisque on peut le dire, il y a le père qui est lui-même dans cette agriculture conventionnelle, le fils qui lui cherche à se reconvertir, et la fille, qui elle incarne un peu le doute, quelque part, c'est ça?
C'est ça.
La place de cette fille qui justement remet, qui permet en fait de douter, de remettre en question un petit peu ces modèles de reconversion?
Et oui, parce que chacun est libre, et que c'est pas si simple que ça, c'est pas parce qu'on est complètement convaincu, donc ce qui est le cas de Florian, que sa fille qui s'apprête à reprendre en exploitation va être à 100% dans les mêmes valeurs. Elle n'est pas à 0% quand même, hein. Elle est en effet un petit peu dans le doute, dans le sens où les difficultés qu'elle rencontre la font se questionner quoi, sur la notion par exemple de ne jamais traiter de manière chimique. Elle n'est pas complètement en phase, mais elle n'est pas complètement en phase dans cette époque qu'elle vit, c'est-à-dire qu'elle est à peine sortie de l'adolescence dans le dernier tome des Seigneurs de la Terre. libre au lecteur d'imaginer ce qui va se passer après.
Ouais, c'est ça. Je me suis demandé si elle incarnait pas un petit peu le lecteur ou la lectrice qui justement doutait ou aurait des questions, et du coup si elle vous servait pas un petit peu de, bah, justement de mettre en avant ces questions qu'on pourrait se poser, et du coup Florian qui répond.
Si, exactement, ça c'est le truc du scénariste.
Donc, personnage très important finalement.
Ah bah oui, carrément, parce que sinon c'est totalement manichéen, quoi, si on ne va que dans un sens. D'ailleurs, sur le vécu de cette série, j'avoue honnêtement que dans les deux premiers tomes, certains critiques, en fait, les critiques globales étaient vraiment très positives, mais certains critiques mettaient quand même en avant un côté légèrement manichéen que j'ai essayé de retravailler justement après pour m'en éloigner encore plus, pour éviter le côté donneur de leçons, quoi.
Alors on part donc d'ici, d'expériences pratiques, d'initiatives locales comme les circuits courts, les AMAP, l'agroécologie, je l'ai dit, mais il y a aussi le combat de Florian qui se joue sur la scène nationale, voire internationale, via des conférences qu'il mène, du lobbying aussi sur la scène politique, du local au global, donc du local depuis la Biovallée au global, c'est ça le message aussi de la BD ?
Je pense que c'est un peu mon message inconscient, parce que je n'étais pas trop mentalisé, quoi. Je pense que sur cette histoire du parcours de Florian, l'avantage et le problème, c'est que je pense qu'il me ressemble, quoi. Donc il parle autant qu'il ne met les mains dans la terre. Enfin, il parle même plus qu'il met les mains dans la terre, sauf à la fin, quoi, où il retourne vraiment. Mais en effet, on retrouve quelque chose qui m'est cher aussi, c'est l'implication politique. Dans le bon sens du terme, quand je dis politique, c'est pas dans le sens des partis, c'est dans le sens de participer à la gestion de la cité, quoi.
Encore, pour pas tomber dans ce côté manichéen du local, mais du coup l'idée c'est de jouer sur différents plans pour pouvoir transformer les choses, quoi. C'est-à-dire que de toute façon il faut jouer sur le plan politique pour pouvoir transformer aussi. Moi, il y a quelque chose que du coup j'ai beaucoup apprécié, c'est à la fois le fait de s'identifier donc ici localement dans la Biovallée, parce que j'y habite aussi et qu'on reconnaît la vallée, et aussi on s'identifie à une époque, à l'époque actuelle, dernières années, puisqu'on reconnaît des personnages connus tels que des politiques, des scientifiques, des journalistes. On aperçoit même Léa Salamé et Nicolas Demorand en train d'interviewer Nicolas Hulot au moment de sa démission du gouvernement. Et alors ces références, elles sont claires, elles sont assez claires, on peut reconnaître les personnages, et pourtant vous ne les nommez pas. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de les nommer, ou vous les nommez autrement souvent ?
Ouais, ça dépend des cas. Par exemple, dans les premiers tomes apparaissent Pierre Rabhi et Jean-Marie Pait, par exemple, qui étaient... Non, Jean-Marie Pait était déjà décédé, mais Pierre Rabhi évidemment était encore vivant. Et là je les nomme parce que simplement ça se mettait plutôt bien dans l'histoire. Après, Nicolas Demorand et Léa Salamé, c'est juste un moment que je trouve très fort, quoi. C'est cette incroyable interview sur France Inter de matin où Nicolas Hulot annonce sa démission à la grande surprise de tout le monde, y compris justement des chroniqueurs, puisque en prenant le café avant, il ne l'avait pas annoncé, en fait, Nicolas Hulot. Donc il y a une espèce d'émergence.
C'est une surprise pour tout le monde.
Voilà, ça surprend tout le monde. Dans l'histoire, il n'y avait pas d'utilité pour moi de nommer, par exemple, Léa Salamé. Et en effet, je pense que non, on n'a pas nommé non plus Nicolas Hulot, c'est ça votre question ?
Nicolas Hulot, et non plus, alors j'ai oublié la personne qui mène la fameuse enquête dont on parlera un petit peu tout à l'heure, l'enquête de 2 ans. En tout cas, vous trouvez parfois des noms différents, quoi.
Mais... Oui, tout à fait. Alors Nicolas Hulot, bon, j'en sentais pas d'utilité non plus, quoi. C'était le ministre, voilà. Oui. Quoi.
Et comment vous êtes documenté, du coup ? Est-ce que c'est vous êtes inspiré de l'actualité que vous suiviez ? Est-ce que vous êtes allé rechercher des choses ? Est-ce qu'il y a eu comment est-ce que vous avez fait ce travail de documentation là ?
Alors de la recherche, pas mal de recherches évidemment, comme tout le monde aujourd'hui sur Internet, des lectures, parfois des reportages sur Nicolas Hulot par exemple. J'ai regardé des reportages où il est interviewé après son départ du gouvernement sur ce qui a fait que. Et puis sur l'expérience du professeur dont vous parliez tout à l'heure, peut-être qu'on en reparlera, je ne sais pas, mais je le connais personnellement, donc là j'ai eu des sources de première qualité.
Ok. Et donc dans ce dernier tome, il y a une figure quand même assez centrale, connue aussi, que vous appelez cette fois Misanthe, je pense Misanthe pour misanthrope, je me suis dit. Est-ce que ça vient de là ?
Pas tout à fait, c'est-à-dire qu'au tout départ, moi j'étais prêt à appeler un chat, en fait. Hein. Ouais. Et c'est mon éditeur qui m'a dit, tu vas peut-être pas faire ça, parce qu'on n'a pas envie de se retrouver avec un énorme problème. Alors, c'est pas trop ma pensée, parce que pour moi, on se retrouve pas avec un gros problème, on se retrouve avec peut-être, je sais pas si je suis cynique, je vais dire de la pub. Et de toute manière, de manière générale, tous les opposants maintenant à Monsanto, se lâche depuis assez longtemps, et Monsanto va pas faire des procès contre tout le monde, c'est impossible puisqu'on est sur des faits avérés. Voilà, donc j'ai juste essayé de trouver des noms qui seraient ressemblants. Et à l'époque, alors je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, mais j'ai pris « me » et puis « saint » en prenant un mot en espagnol et un autre, je ne sais plus dans quelle langue, et qui fait une traduction qui est pas très gentille, quoi. Okay. Et en même temps, on reconnaît, quoi.
Ouais.
Quant à « round up »,« round down », c'est facile à comprendre.
Oui, on comprend assez facilement, en fait, les références.
Ça ne tire pas vers le haut, ça tire plutôt vers le bas. Donc.
C'est ça. Parce que, ouais, du coup, Florian, dans ce sixième tome, il est aussi, seul, pas seul, mais en tout cas, il y a cette figure qui s'attaque à ce très grand groupe qui est Monsanto, on va le citer ici. Ce groupe qui paraît presque inatteignable. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi de consacrer ce dernier tome à cette multinationale, même si je vois bien que c'est quelque chose de très important et qui participe grandement à la destruction de la planète par toutes les causes, toutes les conséquences que vous citez dans la BD.
Ça va être une obsession chez moi. J'ai écrit une pièce de théâtre, en fait, il y a une dizaine d'années, qui s'appelle « Des semences et des hommes », qui avait été jouée d'ailleurs à Die, aux Rencontres de l'écologie, alors que je n'habitais pas ici. Et où, sur scène, j'appelais Monsanto et Roundup. Et du coup, j'ai réutilisé autrement, je l'avoue, tout ce que j'avais accumulé comme connaissances à l'époque, parce que j'avais vraiment beaucoup enquêté, mais aussi tout simplement parce que je pense fondamentalement qu'on est au cœur d'une problématique. Alors évidemment, il n'y a pas que, parce que des fois, des copains ils me disent « mais qu'est-ce que tu as contre eux ?» Il n'y a pas que. Ben non, il n'y a pas que. Ça ne veut pas dire qu'il y ait que, mais ils sont pas mal quand même, quoi.
Ouais. On peut le dire. Et d'ailleurs, vous citez un petit peu toutes les conséquences de Monsanto, mais de manière générale, peut-être de toutes les pratiques de l'industrie agroalimentaire mondialisée dont Monsanto est le symbole. Tout y passe, hein. Il y a la pollution des terres, la biodiversité, enfin l'impact sur la biodiversité, le suicide des agriculteurs, vous en avez parlé, les cancers provoqués par l'usage des pesticides, l'amoindrissement de la nutritivité des aliments qu'on consomme, l'exploitation des travailleurs et travailleuses des champs, parfois des sans-papiers, et même du coup l'agriculture intensive biologique, enfin labellisée bio en tout cas. Tout y passe, un peu comme dans le morceau que je vous propose qu'on écoute tout de suite avant de se retrouver derrière. Ça s'appelle Monsanto et c'est Colibri.
Mon histoire a commencé en 1901, en plein États-Unis, état du Missouri. C'est à Saint-Louis que je suis né, aujourd'hui numéro 1 mondial de l'industrie chimique et agricole, à qui l'on reproche d'avoir du sang sur les mains, ainsi que d'être la responsable numéro 1 du score de la biodiversité qui dégringole, de l'empoisonnement des champs jusqu'aux assiettes, de la chasse aux paysans qui plantent que je brevette. Des reproches, on m'en fait trop, qu'ai-je fait pour en arriver là? Ma réussite, admirez-la, car je suis l'exemple même de l'entreprise qui a réussi sa vie. De l'entreprise qui a réussi sa vie. Incontestablement aidé par mon gouvernement, grâce aux liens qu'on a créés via nos portes tournantes. C'est la réalité, non pas un conte. Bien sûr, si vous prenez en compte les conséquences que mes choix ont entraînées. Des OGM à l'agent orange en passant par les PCB et tous les êtres humains étrangement décédés, ainsi que mon attitude hardcore envers le vivant, je suis d'accord. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de perdre un dollar, alors je suis partout, je fais tout pour que tourne la machine. Même s'il faut que je m'échine, faut que ce monde je le domine, que son avenir je le dessine. Pour ça, je suis toujours prête à jouer à l'assassine. Je suis une multinationale états-unienne. Je sème la haine, je fais pousser les suicides. Je suis les OGM, je suis les pesticides. Je suis devenu la reine des brevets de la mort. Je bois le sang des hommes qui me donnent la force d'imposer mon empire pour le malheur et pour le pire. Responsable de l'automise à mort de milliers de paysans qui par mes brevets et mon génie du gène étaient devenus complètement dépendants de ma politique envers ces petites graines. Car oui, je m'approprie ce bien commun que je vole aux mains de ces peuples qui se les ont transmises de génération en génération. Voilà ce qui se passe quand on ne peut pas se permettre de perdre un dollar. On en arrive à vouloir devoir et pouvoir tout dominer au point de breveter le vivant. Faire main basse sur la vie, on me le reproche souvent. Certains se mobilisent, me diabolisent et me résistent. Combien de temps tiendront-ils face à mon tempérament colonialiste? Je ne m'en fais pas tant, dans quelques temps de moi vous dépendrez. Pour toutes les graines semées et pour tous les champs cultivés, intégrez ce cercle vicieux, j'assombrirai votre futur. Le contrôle des semences et celui de la nourriture, c'est ma stratégie, plus puissante que les armes, plus puissante que les bombes. Oui, ma philosophie gronde, elle est le meilleur moyen pour contrôler le monde. Je suis une multinationale états-unienne. Je sème la haine, je fais pousser les suicides. Je suis les OGM, je suis les pesticides. Je suis devenu la reine des brevets de la mort. Je bois le sang des hommes qui me donnent la force d'imposer mon empire pour le malheur et pour le pire. La domination est l'objectif de ma politique. Elle n'a pas de prix ni morale ni éthique. Depuis quand l'éthique est-elle rentable?
Jamais.
Mais si un jour elle l'est, brevetée, elle le sera aussi. Je m'en fous des critiques d'être lamentable. Je suis l'exemple même de l'entreprise qui a réussi sa vie. Vous avez cerné qui je suis, j'espère. Parce qu'à être la plus réputée, j'aspire. Tout comme dominer l'avenir de cette humanité. Sur qui je suis prête à tout pour faire l'unanimité. Mais c'est difficile quand on porte sur le dos toute l'histoire de Monsanto. Que de la vie, du monde et son avenir, on est les véritables bourreaux. Vous avez bien en tête que tous ces OGM que je brevette ne sont en fait qu'une corde au cou des paysans. Une corde que je tiens comme une laisse. Une corde au cou des paysans. Une corde au cou de l'humanité. Une corde que je tiens comme une laisse.
On vient d'écouter le morceau Monsanto du groupe Colibri. Vous êtes toujours sur Radio Saint-Ferréol et RDIWA pour Il est une vallée. Et on est avec Fabien Rodin, auteur avec Lucas Malissant de la bande dessinée Les Seigneurs de la Terre. Une saga de 6 tomes où l'on suit Florian qui évolue dans la Biovallée en tant que fervent défenseur de l'écologie, de l'agriculture bio et paysanne et dont le combat se situe entre résistance locale et globale, comme on l'a dit juste avant le morceau, puisqu'il s'attaque aussi à la scène politique et par exemple à de grandes multinationales comme celle qu'on vient d'entendre dans ce morceau. Dans ce sixième tome, et comme dans la plupart de vos BD, il y a une part de réel, une part de fiction. Le sixième tome se focalise un petit peu sur cette fameuse enquête qui a été menée sur la PAC des OGM et d'un désherbant bien connu, qui a été donc une étude qui a été menée par Gilles-Éric Serralini, je crois, et qu'on reconnaît aussi d'ailleurs dans la BD. Et en même temps, il y a d'autres faits fictionnels, d'où je le disais tout à l'heure, mes recherches sur Internet. Parfois, je me demandais où était du coup le vrai. Enfin, il y a plein de choses factuelles qui sont parfois très connues. Et des dénouements où on ne sait pas trop, parfois, si c'est la réalité ou si ça vient de votre imaginaire. Comment est-ce que vous avez choisi de prendre certaines libertés sur le réel ou est-ce que ça vous a posé question?
Ça me pose pas réellement question parce que c'est le propre d'une fiction. Après, j'essaye de rester surtout le plus crédible possible et que, en effet, tout ce qui est un tant soit peu technique, on pourrait parler dans les premiers tomes de certaines pratiques en arboriculture bio, soit à chaque fois avéré. Et après, les libertés, je les prends, mais je pense que je peux dire on les prend quand on crée ce genre d'histoire sur ce qui va nous servir par rapport à la dramaturgie. C'est sur ce plan-là, quoi.
Pour la dramaturgie et peut-être pour le message aussi, j'imagine, pour aussi passer un message peut-être plus fort. Ou... Non, c'est surtout pour l'histoire.
C'est surtout pour l'histoire. Ouais.
Mmh. Okay. Et alors donc, Florian, on en a beaucoup parlé, mais parce qu'il est très central. Donc c'est une autre question que je me posais en lisant la BD. C'est vous citez, il y a quelques collectifs qui sont cités, en tout cas sur les deux derniers tomes, j'ai pas lu les précédents. Vous citez par exemple les Faucheurs Volontaires, sûrement d'autres collectifs de ce type, mais c'est quand même très centré sur le combat personnel de Florian, en tant que figure principale, figure assez éduquée, ancien avocat, et qui estime représenter le bien commun. Vous insistez plus sur cette figure-là que sur le rôle, par exemple, des syndicats, de collectifs ou d'associations. Donc Florian, personnage éveillé, un peu héros des temps modernes, comme on en a plein d'autres aujourd'hui, qui tire sa légitimité peut-être de son éducation plus que de la représentativité d'un groupe. Est-ce que... Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que c'est propre à l'époque actuelle? Parce qu'il y a quand même beaucoup de revendications aujourd'hui qui tournent autour d'une figure centrale. Pierre Rabhi. Alors je pensais, en lisant le cinquième tome, je me suis dit, ça m'a fait penser à Pablo Servigne. Je me suis dit, ah, mais c'est peut-être Pablo Servigne, je ne sais pas si vous a inspiré ou pas. Et puis tome 6, surprise, je vois que c'est lui qui fait votre préface. Donc est-ce que c'est ce type de personnage déjà qui vous inspire? Et est-ce que, qu'est-ce que ça vous dit de l'époque actuelle, en fait, ces revendications qui tournent autour d'une figure centrale comme ça?
Vaste question. Je suis pas sociologue. non, c'est vrai. En tout cas, je sais pas si je l'avais complètement mentalisé, mais on est autant sur une sorte de parcours du héros, quoi. J'adore pas ce terme-là, mais c'est quand même ce que j'ai créé, quoi, avec Florian. On est autant là-dedans que dans une saga familiale, comme par exemple Les Maîtres de l'Orge, qui est un peu la référence des sagas familiales en BD. Qu'est-ce que ça me dit d'époque ? Moi, je sais pas, je peux pas scinder les choses, quoi. Je pense que y a certaines personnes emblématiques qui se dégagent autour de leur combat et qu'il est éminemment important qu'on ait des collectifs. C'est un sujet qui me touche particulièrement, d'ailleurs, parce que moi, j'ai deux métiers. Il y a celui de l'écriture et puis il y en a un autre où je suis un transmetteur d'intelligence collective dans tout type d'organisation. L'idée derrière étant que comment on peut faire pour mieux fonctionner ensemble. Donc pour moi, c'est un sujet en effet éminemment politique, qui est une autre de mes passions et qui est d'ailleurs un de mes futurs projets.
Futur projet politique.
Bah, j'ai envie de traiter cette thématique.
Ouais. Ok. Est-ce que c'est pas aussi, parce que Florian écrit un blog par exemple, je me disais que par rapport à l'époque actuelle, très présente où les réseaux sociaux sont très présents et tout, peut-être qu'on a besoin davantage aussi de figures comme ça dont on doit s'inspirer, des figures comme Florian et comme d'autres. Et de qui est-ce que vous vous êtes inspiré concrètement ? Est-ce qu'il y a des personnages, des figures là actuelles représentantes de l'écologie qui vous ont inspiré plus que d'autres ? Pour travailler le personnage de Florian.
Vous parliez tout à l'heure, par exemple, de Pablo Servigne, je le trouve terriblement inspirant. En effet, avec d'ailleurs une notoriété qui s'est développée d'une manière exponentielle à un instant T, qu'il n'a carrément pas souhaité d'ailleurs. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a envie d'être l'homme providentiel, mais carrément pas du tout même. mais c'est comme ça, c'est-à-dire qu'il y a, c'est très étonnant. Il y a des personnes qui, je pense que des personnes qui parlent juste, ou en tout cas qui ont un message intéressant, quand je dis juste, ça ne veut pas dire que tout soit vrai, ça ne veut pas dire que tout le monde accroche. Par exemple, Pablo Servigne, tout le monde n'accroche pas évidemment à sa vision, mais forcément, à un moment donné, une sorte d'incarnation pour le grand public qui fait que la personne devient une espèce d'icône. Même Pierre Rabhi, à son époque, quand je l'ai rencontré et eu des discussions un petit peu intimes avec lui il y a plus de 10 ans, m'a dit je comprends pas trop ce qui se passe, parce que pendant 50 ans j'ai fait des conférences en disant à peu près tout le temps la même chose et j'avais entre 20 et 45 personnes, et qu'est-ce qui se passe pour que maintenant quand je vais dans une salle il y ait 3000 personnes et qu'il faille les forces de l'ordre, ça a dépassé complètement quoi, cette espèce d'incarnation pour le public. Oui, probablement que ça parle de notre époque. Bon, ceci étant, j'ai pas non plus avec Florian créé un influenceur qui a 3 millions d'abonnés sur Instagram, quoi.
On sait pas, vous précisez pas combien il en a sur son blog, je crois. Parce qu'il écrit un blog quand même, c'est vrai que c'est très actif du coup. Il écrit un blog, il l'a su.
Oui, mais je suis déjà vieux jeu en parlant d'un blog. Ma fille me dirait, attends, il est même pas sur Insta.
C'est vrai qu'il a pas de réseaux sociaux d'ailleurs, il le précise. Il est exactement. Très peu sur les réseaux sociaux, pourtant.
Oui, parce qu'il y a quelques-unes de mes convictions quand même.
Ouais. on a cru le comprendre, je pense. Et d'ailleurs, dans ses convictions, dans ce combat que mène Florian, alors on voit ce combat individuel incarné dans sa personne qui se bat à la fois sur le local et puis, on l'a dit, contre Monsanto et tout. Par contre, sur l'approche systémique, c'est-à-dire transformer le système politique lui-même et du coup essayer de prendre aussi peut-être les leviers du pouvoir, la transformation politique en tout cas, c'est quelque chose que vous mettez peut-être un peu moins en avant, un peu plus sur ce combat que l'autre. Est-ce que par conviction, là encore, ou est-ce que c'est pour le choix
Je pense surtout que dans mon histoire, il incarne la fameuse pensée tellement citée de Gandhi, quoi, de devient le changement que tu souhaites pour le monde. Et alors il le fait souvent d'ailleurs de manière malhabile, et ça c'était volontaire de ma part. Mm. Mais pour moi, il est dans cette dimension-là, même s'il se fait choper par quelque chose qui vient titiller quand même en permanence, qui vient un peu chercher son ego. C'est le cas notamment dans le tome 6, où il dit non mais c'est bon, la politique, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Et puis quand même, quand on lui propose, il ne sait pas dire non, quoi.
Ouais. Oui, parce qu'on ne dira pas plus pour ne pas spoiler non, trop le sixième tome, mais oui, que je vous invite à lire en tout cas, il est très bien. Et le cinquième aussi, je vais me presser pour lire les 4 premiers tomes que je n'ai pas encore lus. Autre bande dessinée qui sort aujourd'hui, même mercredi 4 mai, c'est Les Damnés de l'or brun. Alors là, on s'éloigne un petit peu de la Biovallée, mais pas tellement de vos revendications d'un système capitaliste qui s'impose et qu'on retrouve dans les deux. Puisque là, c'est le chocolat qui est à l'honneur. Alors, un honneur très relativisé, puisque vous cherchez du coup surtout à montrer les facettes les plus sombres de cette petite fève que tout le monde s'arrache en parlant d'esclavage, de colonisation. Alors pourquoi avoir choisi ce thème cette fois, ce sujet-là ?
Alors ce qui est rigolo, c'est que je n'avais pas spécialement envie de traiter cette thématique-là. D'ailleurs, un producteur, un magnifique producteur de chocolat bio et équitable, De la Vallée était venu me voir il y a des années en disant tu devrais parler de ça, etc. Et moi, je peux pas raconter l'histoire de tous les produits, quoi. J'aime le chocolat, mais bon, ça va, quoi. Et puis il s'est trouvé que à peu près au moment où on est arrivé dans la Vallée, j'ai vu une émission d'Élise Jusset sur le chocolat. Et ça m'a bouleversé sur la présence encore aujourd'hui de quelque chose qu'on peut qualifier d'esclavage moderne, qui participe à la production de probablement 80% des chocolats qu'on peut croquer. Et là, je me suis dit, ouais, il y a vraiment un truc à faire parce qu'il n'y a pas que ça, quoi. Donc il y a cette thématique sociale assez horrible. Mais il y a aussi une thématique écologique énorme, puisque le chocolat participe à la déforestation et donc au problème du réchauffement climatique. Il y a un problème économique évident, puisque le chocolat devient un marché au même titre que les céréales, que l'argent, que l'or. Enfin bref, il illustre plein de choses extraordinairement compliquées derrière un produit passion, quoi. Parce que c'est super, enfin c'est super bon. Si on aime ça, on trouve ça super bon. Et on peut pas imaginer ce qu'il y a derrière. Et là, je me suis dit, ok, il y a un truc à faire. Donc j'ai un petit peu cherché. Je trouvais qu'il y avait rien dans de la BD classique. On trouvait des BD sur le chocolat, mais des BD plutôt drôles ou des BD de recettes, des choses comme ça, mais rien sur la réalité historique du chocolat. D'où l'idée de traiter cette histoire du chocolat à travers le prisme particulier de l'esclavage.
De l'esclavage, donc notamment au Brésil, fin 19e, je crois que
Oui, donc ça commence, le tome 1 commence en effet en 1820. 1820, c'est un moment très particulier, puisque c'est le moment où déjà tous les pays hispanophones d'Amérique du Sud ont fait leur révolution, mais pas le Brésil, qui est donc sous domination portugaise. Et à ce moment-là, il fait sa révolution. Et au moment de la révolution, des familles issues des Portugais fuient le pays. Et pour certains, partent avec des plants de cacaoyer sur une autre colonie portugaise qui est l'île de São Tomé au large de l'Afrique. Et c'est là que commence l'exploitation de la fève de cacao en Afrique. C'est-à-dire qu'avant ça, le cacao, depuis l'histoire du monde, n'est exploité qu'en Amérique du Sud. Donc là, ça commence en Afrique, puis après, ça va prendre des proportions évidemment très importantes. Et donc dans cette BD, on va traiter un tome en fait par génération. Donc là, on va être plus vraiment sur la saga familiale historique, avec le premier tome qui se passe au Brésil, Salvador plus précisément, le deuxième à São Tomé, et le troisième se passera en France au moment de l'exposition universelle de 1878, je crois, et donc sur la partie industrialisation.
Trois tomes donc cette fois, et non six, ou ça pourrait
trois tomes pour commencer. En tout cas, trois tomes tout sûr, et après on en reparlera. Mais je tiens à dire aussi que dans cette BD, comme mon habitude, je décris ce qui me heurte, mais à chaque fois il y a aussi des ébauches de solutions, puisque dans le chocolat, je l'ai cité tout à l'heure, mais il faut savoir quand même que dans la vallée, il y a au moins 4 voire 5 producteurs de chocolat bio et équitable. On a un terreau incroyable, quoi. Je ne sais pas exactement comment ça s'explique.
Et donc cette nouvelle BD, vous l'écrivez cette fois avec Didier Alcante et Francis Valliès. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette rencontre et de comment est-ce que ça s'est fait tout ça finalement?
Ah oui, avec plaisir, parce que c'est une histoire assez marrante. C'est que j'avais cette idée, puis il se trouve que j'étais au téléphone avec Corberan, qui est un autre scénariste, le plus productif des scénaristes depuis l'histoire du monde de la BD, et qui me demande sur quoi je bosse en ce moment. Je dis j'ai l'idée, c'est le tout début d'une saga sur le chocolat. Et il me répond, il va y avoir du monde sur le chocolat dans la BD. Alors je lui demande pourquoi. Lui-même sortait une saga quelques mois après, et il me dit, Alcante est en train de proposer à Glénat une saga sur le chocolat. Donc j'ai contacté Didier Alcante.
Sur le chocolat, mais du coup, sur le même angle du
Non,
coup,
non. Non, non pas du tout, en tout cas pas à ma connaissance, et pas forcément encore d'angle dessiné. Mais par contre, cette vision de faire un truc sympa sur le chocolat. Et déjà, lui voulait le faire avec Vallès, donc le dessinateur. Et Vallès, c'est le dessinateur des Maîtres de l'Orge. Donc pour rappel, les Maîtres de l'Orge, c'est la référence de la saga familiale et historique dans le monde de la BD. En l'occurrence, c'était sur la bière. Donc ils avaient déjà décidé en gros de faire binôme, mais j'ai proposé à Alcante de s'associer, parce que soit on faisait chacun de son côté, soit on faisait ensemble. Tout de suite, il a été enthousiasmé, on s'est dit ok, go, on y va. Et voilà, d'où ce trinôme.
Super.
Qui me ravit.
Très très bien. Est-ce que vous allez prendre un peu la même, du coup, cette même démarche? Bon, on a compris que vous partez du réel, mais ça restera une fiction. Enfin, ça reste une fiction avec une histoire, des personnages, des péripéties à suivre, un peu comme à la manière de Les Seigneurs de la Terre.
Oui, oui, complètement, complètement. Puis là, comme on est dans une dimension très historique, quand on se retrouve sur 1820 dans une exploitation de cacao au Salvador, autant vous dire que c'est compliqué de trouver des sources. Donc on a quelques faits historiques, on a la révolution, on cherche évidemment des références photographiques, beaucoup de travail de recherche. Maintenant, évidemment, toute la famille, elle est inventée, etc., même si elle est inspirée du réel. Encore plus que dans Les Seigneurs de la Terre. Par contre, encore une fois, bien sûr, les faits historiques seront... réel.
Les damnés de l'or brun, donc ça s'appelle, et donc vous la retrouvez dès aujourd'hui, mercredi 4 mai, en librairie. Pour finir, dernière petite question. Vous êtes un écrivain donc à la fois engagé, on l'a compris, vous vous définissez aussi comme optimiste, j'ai pu voir. Est-ce que aujourd'hui, du coup, dans l'époque actuelle, avec le dernier rapport du GIEC par exemple, qui vient de sortir et qui nous laisse finalement très peu de temps pour agir en transformant radicalement nos manières de produire, de consommer, de se déplacer, est-ce qu'on peut encore être optimiste?
On peut entendre ce mot optimiste de plusieurs manières. De mon point de vue, être optimiste, c'est pas se réjouir et passer des bons moments quand tout se passe bien. Ça, c'est pas être optimiste, c'est juste être normal, quoi. Alors, faut être fou pour saccager des moments agréables. Pour moi, être optimiste, c'est justement quand c'est compliqué, avoir la foi chevillée au corps, qu'en se retroussant les manches, on peut s'en sortir. Et que même si jamais on peut pas s'en sortir, on peut faire tout notre possible et déjà soigner nos actes. Poser des actes justes. J'ai envie de citer encore une fois Pierre Rabhi, parce que cette phrase aussi m'a fortement impacté, qui disait « J'essaye de toujours faire de mon mieux, Dieu, s'il existe, fera le reste. » Je pense que quand déjà on se met à agir et à faire de son mieux, c'est pas qu'une question de force ou de physique, c'est aussi une question de conscience, ça aide à rester optimiste, en tout cas à rester ancré dans la vie. Et puis j'ai envie d'ajouter aussi quelque chose, c'est que dans un endroit comme celui où on vit ici, je trouve que c'est plus facile d'être optimiste parce que la beauté est partout. Et un des sujets qui m'imprègne de plus en plus, et cette région m'y aide, c'est de prendre conscience que la nature est en nous. Et comme le dit Michel Serres, qui disait « Descartes a fait une erreur, c'est de dire l'homme et la nature, E-T ». Il a juste oublié un S. L'homme est la nature. Et je pense qu'en étant le plus relié possible à la nature, à sa beauté et à sa vie, qui de toute façon est là, ça aide à être optimiste.
On terminera donc par cette belle citation de Descartes. Enfin, pas de Descartes, mais justement la transformation de la citation de Descartes. Merci Fabien Rodin, auteur donc de Les Seigneurs de la Terre, 6 tomes que vous pouvez retrouver en librairie, et on en a de très bonnes par chez nous, donc vous pouvez largement éviter les grandes enseignes. C'est valable pour Les Seigneurs de la Terre, mais aussi pour Les Damnés de l'or brun, qui sort aujourd'hui même, mercredi 4 mai. Merci Fabien encore d'être venu à nos micros.
Merci à vous.
C'était Théo à l'animation, et on remercie Anna à la technique. C'était Il est une vallée, vous nous écoutiez sur le 94.2 pour Radio Saint-Ferréol et le 107.5 pour RDIWA, une émission en partenariat avec la Biovallée que vous pouvez réécouter demain à 8h sur Radio Saint-Ferréol et en podcast sur radiosaintfé.com et rdiwa.fr. Bonne journée à toutes et à tous.